Merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure du magazine Force 7, un magazine préparé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, élections départementales dans les Alpes de Haute-Provence, les binômes de la droite ont été dévoilés. Nous entendrons Éliane Bareil et Camille Galtier. Ce dimanche, ils vont marcher pour dénoncer le manque d'ambition du gouvernement sur l'urgence climatique, les arguments de Cécile Ahmed Abdi dans ce magazine. La ville de Digne-les-Bains aide les commerçants du centre-ville pour leur réouverture prévue le 19 mai. Odile Frison a interviewé Bernard Pierry sur les dispositifs de ce soutien. Du côté de Briançon, les acteurs du tourisme se préparent à une saison pleine de promesses. Le reportage de Susanna Wright dans ce magazine. Et puis, restons dans le tourisme, nous irons visiter une safranerie à Saint-Martin-de-Brome dans le 04, un lieu qui cultive le safran et élève des ânes et attend avec impatience l'ouverture prochaine aux visiteurs. Départementale 04, la droite veut reprendre les commandes.
C'est l'objectif présenté cette semaine à Fort-Calquier par les candidats de la droite dans les Alpes de Haute-Provence. Après plus de 20 ans des présidences socialistes Bianco, Sauvan et aujourd'hui Massette, ils entendent être majoritaires au conseil départemental. LR, UDI et quelques personnes de la société civile composent donc des binômes, mais sans affichage ni logo des partis politiques. Cela devient une constante dans les scrutins locaux. Présent dans 13 cantons sur 15, le groupe Avenir 04 n'a pas de candidat sur ceux de Château-Arnoux-Volonne et Oraison, où deux élus importants de La République En Marche, Sandrine Cossera et Benoît Gauvan, nourrissent des ambitions certaines. Faut-il y voir un effet muselier lié à l'actualité récente? Je vous laisse en juger. Ces dernières années, cependant, les élus de droite ont composé une majorité hybride avec les socialistes, derrière René Massette, au détriment des sympathisants marcheurs. Dans l'équipe qui part en campagne aujourd'hui, des élus expérimentés, mais aussi quelques jeunes pousses, comme Camille Galtier, Sandra Rapponi ou bien Laurie Sardella, et donc les duos plus anciens, Jacques Bresse et Stéphanie Colombero, de même que Robert Gay et Isabelle Morino, se représentent, ou encore Jean-Claude Castel, avec le renfort d'élus expérimentés comme Gérard Baumel ou bien Magali Sur-le-Girieux et surtout Éliane Bareil, maire honoraire de Maligé et actuelle vice-présidente de la région Sud. Pourquoi ce changement d'échelle territoriale? C'est la première question que je lui pose, avec ses motivations, de même qu'au jeune maire de Manosque, Camille Galtier, candidat sur un canton de sa ville. Éliane Bareil, vous êtes actuellement vice-présidente à la région et vous vous présentez aux élections départementales. Pour quelles raisons?
C'est un choix très réfléchi et bien mesuré. J'ai travaillé pendant 5 ans et demi sur le territoire des Alpes de Haute-Provence. J'ai labouré ce département et j'en connais tous ses recoins. Et j'ai eu envie de travailler pour ce département. Je trouve que ce département est à la traîne par rapport aux 5 autres départements de la région. Et j'ai eu envie d'apporter un peu de mon expérience.
Et vous vous présentez sur le canton de Riez?
Alors c'est pas un hasard si je viens sur le canton de Riez, c'est tout simplement parce que je suis première vice-présidente du parc naturel régional du Verdon, donc j'ai beaucoup travaillé sur ce canton aussi, où bien sûr les thèmes principaux sont le tourisme et l'agriculture, des thèmes qui ont été très importants pour moi dans ma délégation ruralité. J'ai eu envie d'aller sur un canton que je connaissais bien, sur lequel j'avais beaucoup travaillé, en particulier sur l'agriculture, avec l'irrigation du plateau de Valensole, entre autres, par la SCP. Et donc, tout naturellement, je me suis tournée vers ce canton, puisque, pour ne rien vous cacher, j'ai été aussi sollicitée pour aller sur ce canton par les maires en place.
Avec l'équipe qui se met en place sur cette élection cantonale dans les Alpes de Haute-Provence, vous êtes une personnalité politique d'expérience. Comment vous voyez les jeunes élus qui vous ont rejoint ?
Justement, j'apporte l'expérience. Eux, ils ont la jeunesse et la fougue. J'apprends beaucoup d'eux parce que, bien sûr, ils n'ont pas les mêmes méthodes. Quand j'ai commencé mes mandats politiques, la communication, on n'en parlait pas beaucoup. On faisait du porte-à-porte, on allait voir les gens, mais on parlait pas de communication. C'est une révolution dans la manière de faire de la politique. Je crois que du coup, on se complète très très bien et moi, j'ai envie de travailler avec eux.
Alors justement, il y a un jeune à côté de nous, c'est Camille Galthié, maire de Manosque. Pourquoi cette candidature, Camille Galthié ?
J'étais déjà candidat il y a 6 ans, en 2015, sur ce canton de Manosque Nord. J'y vois deux nécessités. La nécessité d'abord de transformer notre département des Alpes d'Haute-Provence, qui en a bien besoin après 20 années de socialisme. Et je pense que notre mouvement de la droite et du centre a cette capacité d'aller transgresser et d'aller changer le département. La deuxième nécessité est que Manosque est le parent pauvre du département depuis des années et que, vu que le département ne vient pas à Manosque, ben Manosque va aller au département et je pense que les choses seront un peu plus simples comme ça.
On va avoir une campagne, je ne vais pas vous l'apprendre, qui va être complètement chamboulée à cause de la crise sanitaire. Comment vous vous préparez à cette période ?
Je crois qu'il va falloir faire de la pédagogie pour expliquer aux gens les enjeux de cette campagne, leur expliquer pourquoi c'est important d'aller voter aux élections départementales, parce que c'est le conseil départemental qui régit la voirie, qui régit les collèges notamment, et qui régit le social. Donc cette question, elle va être primordiale dans les prochaines semaines, et d'expliquer aux gens, à la population des Alpes d'Haute-Provence, qu'ils peuvent décider d'une politique certaine et avec cohérence pour les 7 prochaines années. Mais bien évidemment, je vous rejoins, ça va être compliqué d'aller faire voter les gens les 20 et 27 juin, parce que les gens ont plus en tête de se faire vacciner, de sortir de cet état de fait de cette pandémie mondiale, que d'aller voter. Mais la démocratie doit vivre.
Vous avez préparé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, ces binômes pour les élections cantonales, mais aussi un programme.
Le programme, il vous sera dévoilé dans les prochaines semaines. On présente d'abord les candidats qui vont porter ce projet. Bien évidemment, ce projet-là, on en a discuté tous entre nous, mais ce projet-là, il vient pas des candidats, il vient des élus locaux que nous sommes. C'est-à-dire les manques que l'on peut avoir sur nos communes, sur les différentes assemblées, comme Eliane Barail l'a dit, au niveau de la région, et des manques que le département a eu ces dernières années. Il vient pas des candidats, il vient vraiment des élus locaux et de territoires que nous sommes, et c'est comme cela que l'on a construit notre projet.
Vous serez présent sur 13 cantons sur les 15 que compte notre département. Pourquoi deux cantons absents ?
Tout simplement parce que je dis, et nous avons dit, on veut des élus représentatifs ou des candidats représentatifs de quelque chose. C'est par exemple le cas de Françoise Meyer, qui est une représentante agricole formidable. Sur les deux cantons manquants, celui d'Oraison et celui de Château-Arnoux, nous n'avions pas d'élus locaux sortants, nous n'avions pas de personnes représentatives de la cohérence que nous voulions avoir dans notre projet et dans les candidatures que nous portons. Donc on n'a pas cherché à aller plus loin, on a essayé de travailler sur les candidats légitimes que nous avions ailleurs, ce qui fait de notre force politique la première force du département des Alpes-de-Haute-Provence.
Votre calendrier pour les prochains jours ?
Moi, je suis maire à 100% et le maire de Manosque a besoin du département. C'est pour ça qu'il est candidat aux élections départementales.
Eliane Barré, votre calendrier ?
Moi, je termine bien sûr mon mandat régional. J'ai encore quelques très très gros comités syndicaux et je serai présente. J'irai jusqu'au bout de ce mandat. Mais bien entendu, en même temps, je vais commencer à faire campagne sur les territoires, aller à la rencontre des gens.
Dimanche 9 mai, une marche pour l'urgence écologique.
La déception est immense chez ceux qui pensaient que le gouvernement français allait tirer les leçons de la Convention citoyenne pour le climat. Créée à l'initiative du président Macron, la Convention a reçu une écoute timide, le mot est faible, quant à ses propositions pour lutter contre le dérèglement climatique. Sans oublier les engagements signés en 2015 dans l'accord de Paris, la loi climat et résilience manque d'ambition et ne répond pas aux questions essentielles selon les écologistes, mais pas seulement. pillage des ressources naturelles, appauvrissement des sols, érosion et montée des eaux comme des températures, poids des lobbies pétroliers et financiers, chaque élément souffre de l'inaction des dirigeants face à l'urgence écologique qui ne fait plus aucun doute. Dimanche 9 mai, dans le prolongement d'une loi climat à minima, des appels sont lancés à travers la France pour réclamer une vraie prise en compte des problèmes et un engagement fort à les régler. Cécile Ahmed Abdi sera à Digne ce jour-là et précise les raisons de sa présence. Cécile Ahmed Abdi, pourquoi cette marche dimanche ?
Cette marche pour rappeler au gouvernement qu'il doit tenir ses promesses, rappeler aux élus l'urgence climatique, pas simplement au niveau national, mais aussi au niveau de nos territoires, à savoir le département, la région. Il y a des élections dans 2 mois et c'est important de rappeler à nos élus que cette transition écologique et sociale doit s'opérer, qu'il y a une urgence environnementale et sociale, qu'il faut une écologie solidaire.
Il y a de nombreuses associations et structures qui participent et qui organisent cette marche. C'est une opération nationale.
Oui, alors déjà la première marche qui a eu lieu, c'était le 28 mars. Donc c'était un appel national qui était relayé par plus de 600 organisations. Il y a eu 180 sites déclarés en France, donc des manifestations sur tout le territoire. Et Manosque également, avec presque 200 personnes pour un dimanche après-midi, ce qui est pas mal. Et ce qui est intéressant dans cette marche, c'est qu'on a pu aussi entrer en contact avec d'autres associations environnementales sur le département. Il y a une sorte de maillage qui s'opère et qui est intéressant.
On va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement ?
Ce sont des marches pour dénoncer l'absence d'ambition climatique du gouvernement, puisque, comme vous le savez, Emmanuel Macron avait créé une convention citoyenne pour le climat, qui a travaillé longuement, plus de 6 mois, et qui a produit 149 mesures. Et Emmanuel Macron avait promis, peut-être dans l'hiver, il avait dit « j'appliquerai sans filtre ces mesures qui doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% à l'horizon 2030 ». Peut-être vous avez tous entendu parler des déclarations de Macron qui disait « je ne veux pas d'un modèle Amish », etc. Et finalement, il est revenu sur sa parole. Il a proposé une loi qui s'appelle la loi climat et résilience, qui est véritablement très très mal évaluée par les citoyens de la Convention et les organisations environnementales, puisqu'elle est, notée aux alentours de 3 sur 10. Voilà, donc c'est une loi qui est vraiment très 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 faible en termes d'ambition climatique.
On sait combien le souci écologique concerne notre planète et notamment la jeunesse. Vous pensez que les jeunes seront à vos côtés dimanche ?
Je l'espère. Je pense que c'est effectivement très important que les jeunes ressortent dans la rue et dépassent en quelque sorte la peur et l'obéissance dans laquelle on vient de les mettre pendant plusieurs mois. Et je crois qu'ils ont totalement conscience de la solidarité qu'il importe d'avoir vis-à-vis des personnes plus fragiles, mais il est très important également de clamer notre colère par rapport à cette absence de mesures et ce non-respect de sa parole. On peut dire que Emmanuel Macron a trahi la promesse qu'il avait faite aux 150 citoyens tirés au sort. Donc ce n'est pas un travail en l'air, c'est un vrai travail de réflexion avec des scientifiques, avec des militants, avec des organisations. Et les mesures sont très, très, très intéressantes. Si vous voulez vous plonger dans ce qui a été proposé, je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle sansfiltre.les150.fr.
Qu'est-ce qu'on trouve particulièrement sur ce site sans filtre ?
Sur ce site, c'est très intéressant parce qu'il est très visuel, très synthétique. Déjà, ça commence par un camembert. On voit véritablement les mesures qui n'ont pas été appliquées. Sur les 149 mesures, il y en a 72 non traitées. Et puis ensuite, on a le détail et on classe les mesures selon le fait qu'elles soient appliquées, débattues, en danger, insuffisantes, abandonnées. Enfin, on voit vraiment le travail de sape du gouvernement selon les 5 thématiques: se nourrir, produire, travailler, se déplacer, consommer et se loger.
Est-ce que vous espérez la présence d'élus, voire de parlementaires, lors de ces rassemblements ?
Ah oui, j'espère. Et j'ai déjà, par exemple, la promesse du maire de Liman, qui m'a dit qu'il viendrait avec son écharpe tricolore, parce qu'il est lui-même outré de ce déni de démocratie.
Concrètement, comment ça va se passer? C'est dimanche et il y a plusieurs événements dans la région?
Oui, alors donc c'est dimanche à Digne, c'est co-organisé avec Europe Écologie et Verts et des citoyens. Le rassemblement a lieu à 14h, place du Général de Gaulle. Et après avoir marché, nous allons un peu débattre et présenter des associations dans le parc Louis Jouvet. Ça sera l'occasion de prendre contact avec d'autres citoyens, avec d'autres collectifs. Et de s'organiser, parce que sur nos territoires également, il faut prendre conscience qu'il y a vraiment une transition à faire, notamment dans le domaine des transports et principalement dans le domaine du logement. C'est ce qui m'apparaît.
Si on veut de plus amples renseignements sur ces manifestations, notamment en région?
Alors, je vous conseille d'aller sur le site marcheclimat.fr. C'est intéressant parce qu'en plus, il y a une carte qui répertorie tous les sites où il va y avoir des marches pour l'environnement. Également, vous trouverez un texte qui explique la raison pour laquelle il faut marcher.
Digne prépare ses commerces pour la réouverture du 19 mai.
La mairie poursuit son aide aux commerçants du centre-ville dans la perspective de leur réouverture le 19 mai. Manager de centre-ville depuis le mois de février, Jérémy Abdila travaille pour Provence-Alpes Agglomération et permet l'accompagnement des nouveaux commerçants. Mis à disposition de la ville de Digne, il va faciliter la mise en place d'actions coordonnées entre la ville et les commerces. Stationnement, terrasses, animations et projets spécifiques sont évoqués par Bernard Pierry, maire adjoint au commerce et à l'attractivité de la ville de Digne-les-Bains, au micro d'Odile Frison.
Bernard Pierry, les commerces de centre-ville se préparent. Quels moyens pour soutenir et dynamiser ce centre-ville?
Réouverture prévue pour tout le monde le 19 mai. Donc la ville, la mairie participe. Et comment peut-elle participer? Facilité pour nous, c'est en particulier facilité financièrement et facilité par nos moyens. Financièrement, je crois qu'on l'a déjà dit, on va renouveler, on va remettre en place l'exonération totale des droits de terrasse et de l'utilisation du domaine public pour toute la ville et centre-ville de Digne, donc pour tout commerce. Café-restaurant, quand je dis terrasse, mais c'est café-restaurant et tout commerce. C'est quand même un geste financier qui est important. C'est 36 000 euros de ressources que la ville ne prélèvera pas, mais c'est utile à un moment donné de donner un vrai coup de pouce à ces commerces et à leur réouverture. Sur un aspect plus technique, on a permis l'extension des terrasses au-delà même de ce qui se faisait les autres années, en fonction de nos possibilités, bien évidemment, techniques. Mais techniquement, on a des restaurants qui auront des extensions de terrasses qui prennent des places de parking, en particulier sur le boulevard Gassendi, mais pas que. Il y en a aussi sur le boulevard Victor Hugo. On a répondu favorablement quand les commerçants nous disaient on craint un petit peu pour les jauges et pour la distanciation, il nous faut des terrasses plus importantes. Pour accompagner ça et pour pas pénaliser le stationnement, on a décidé de libérer des places qui s'appellent des places livraison l'après-midi, sur le boulevard Gassendi en particulier, c'est de faciliter le stationnement par rapport à ces extensions de terrasses. Donc, plus de place pour se garer, des terrasses plus grandes pour que les commerces et restaurateurs qui ouvrent en particulier puissent installer plus de tables, hein, puisque c'est des tables de 6 avec des séparations, j'ai plus en tête de 1 mètre ou plus. Citons aussi l'ouverture en plein centre, quasiment au même moment, du parc Gassendi, du parking souterrain, qui permettra donc d'avoir un parking quasi proximité du centre, de tout commerce et tout centre. Il n'y a pas que le boulevard Gassendi, il y a le centre-ville, la place du marché, la rue de Lubac. Première heure offerte pour le stationnement. Voilà comment la ville elle peut accompagner le mouvement.
Donc première heure gratuite de stationnement dans le parking souterrain Gassendi. Et par rapport au boulevard Gassendi, donc avec l'extension des terrasses, ça veut dire que les gens vont se garer où?
Alors l'extension des terrasses, ils vont continuer de se garer sur toute la zone bleue. Là où il y a aussi la première heure est offerte et gratuite. Mais en plus, ils pourront se garer l'après-midi sur les parkings e-livraison. C'est peint en jaune. Mais ça veut dire qu'en gros, je compense le nombre des places que j'enlève pour mettre à disposition des cafés restaurateurs. Ça compense. Je crois que c'est une douzaine ou une quinzaine de places de livraison qui, dès midi 30, seront disponibles pour se garer dessus. L'idée, c'est de compenser ce que je prends par un stationnement. Et pourtant, quelque part, il y aura le Gassendi avec ses 220 places juste à côté.
On parle d'un manager de centre-ville pour dynamiser et animer la cité. Donc, c'est Jérémy Abdillah, c'est ça?
Oui.
Qui occupe donc quel poste?
Alors, Jérémy Abdillah, il travaille pour l'agglomération, pour P2A. Mais il est mis à disposition pour le programme Cœur de Ville à la ville de Digne. Donc, en clair, il coordonne tout ce qui est activité et action tournée vers le commerce et le lien entre la ville, l'adjoint au commerce, et les acteurs économiques que sont les commerçants et en particulier l'association des commerçants. Il est la ressource qu'on n'avait pas, qui permet de mettre en place des actions qui vont dans le sens d'accompagner l'existant, évidemment, c'est-à-dire d'aider les commerces, surtout dans la situation dans laquelle on est. Aider, ça peut être de temps en temps dire à un commerçant, je vais vous donner quelques indications pour que vous puissiez digitaliser, informatiser votre boutique. Accompagner les installations des nouveaux arrivants.
Cet accompagnement est gratuit?
On est une collectivité. Il apporte un conseil, il apporte une aide, un accompagnement, donc on n'est pas du tout sur une opération commerciale. Non, non, bien sûr que c'est gratuit. C'est pas que c'est gratuit, c'est que c'est un service aujourd'hui qu'on peut proposer à nos commerces. Alors, on ne se substitue pas à tous les conseils professionnels qui existent, mais on va apporter une plus-value à un moment donné au commerce existant par rapport à des demandes qu'ils pourraient nous faire. L'idée, c'est que les commerçants nous disent je ne sais pas comment sera cet été, mais on a réfléchi avec eux à comment on pourrait animer le commerce dinois et augmenter le trafic. Le trafic, c'est le nombre de gens qui vont circuler dans la ville. Eh bien, on va essayer de créer un événement régulier, récurrent, les fameux vendredis soirs, dans lequel on va y mettre de la musique, des jeux, un petit marché éphémère d'artisans et d'artistes le vendredi soir. Ça, c'est les idées. C'est porté par la ville et par les commerçants, mais il faut quelqu'un à un moment donné qui mette tout cela en musique. Il faut un chef d'orchestre. Les commerçants, ils n'ont pas toujours le temps, et la ville aujourd'hui, c'est des élus, elle sait le faire techniquement. Donc, ça sert aussi à ça, le manager de ville, c'est permettre de mettre en place des actions coordonnées entre la ville et les commerces.
Donc, l'objectif de la ville de Digne, c'est de développer de nouveaux commerces en centre-ville. Réhabiliter aussi les commerces fermés.
Alors, dans les métiers et dans les missions qui lui sont affectées, il y a aussi une mission d'observatoire, c'est-à-dire en gros recenser tous les locaux commerciaux qui existent aujourd'hui sur Digne, de regarder en particulier ceux qui sont inutilisés aujourd'hui et ceux qui devraient être réhabilités, de se rapprocher autant que faire se peut des propriétaires, en fait de stimuler des propriétaires qui aujourd'hui n'ont plus de locataires commerçants pour essayer de voir avec eux comment on peut faire pour réhabiliter. Et de notre côté, d'être à l'écoute et d'aller chercher en gros des commerces ou des enseignes qui pourraient venir s'installer à Digne. Il faut agir des deux côtés. Il faut, pour qu'on puisse faire venir des commerces futurs, il faut qu'il y ait des locaux pour s'installer. Mais ça va plus loin. Il faut aussi revitaliser et, je dirais quelque part, réaménager un petit peu le cœur de ville. Il faut que ce soit joli pour qu'un commerce s'installe. Donc ça, c'est aussi le travail de la ville. C'est pas celui du manager, mais c'est le travail de la ville. Dès qu'on est sollicité par une enseigne par un porteur de projet, il faut qu'on puisse très rapidement lui dire « Oui, on a des locaux disponibles à Digne. » Pour ça, on a mis en place un observatoire. On va réouvrir. Ce qui nous demande essentiellement, c'est que la ville soit animée pour que ça donne envie à beaucoup de gens de dire « Tiens, on va rester un peu plus à Digne. Tiens, on va sortir un peu plus à Digne. » En fait, ils nous disent « Donner envie aux gens de déambuler dans les rues, de venir boire un coup en terrasse, de venir écouter de la musique, d'avoir envie d'aller balader avec les enfants, et nous, on arrivera à travailler.
La vallée de Briançon s'apprête à vous accueillir cet été.
Une vallée authentique dans le 05 au nord des Alpes du Sud et aux confins de l'Italie, entre le col du Lautaret et Briançon. La haute vallée est à l'intérieur du parc national des Écrins et au contact de la haute montagne. Serre Chevalier Vallée s'étend sur 27 km 700 et comprend Briançon, cité labellisée ville d'art et d'histoire dont les fortifications Vauban sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, également trois villages phares, Chantemerle, Villeneuve, Le Monnetier-les-Bains et 11 hameaux typiques. Et après ces mois de confinement et de couvre-feu, Il est temps de préparer ses loisirs, que l'on soit montagnard averti ou en devenir. Serre Chevalier Vallée Briançon est la destination idéale pour un séjour ressourçant, dynamique et dépaysant au grand air. Et pour peaufiner un programme où se mêlent outdoor, bien-être et culture, la vallée fait le plein de nouveautés pour en prendre plein les yeux. Le directeur de l'Office de tourisme Serre Chevalier Vallée Briançon, David Chabanal, présente les temps forts de l'été au micro de Susanna Wright.
L'été arrive et le déconfinement aussi. Quels sont les grands rendez-vous proposés par Serre Chevalier Vallée Briançon?
Nous aurons beaucoup de rendez-vous cet été 2021. Je crois que ça sera un été festif et sportif. Donc c'est vrai, on va retrouver nos grands classiques dans les sports qui nous conviennent bien, de montagne et sur les routes, à vélo en particulier. Et puis des événements culturels avec pas mal de panels de nouveautés. Donc ça va être un été où ça fera du bien à Serre Chevalier Briançon de venir se faire plaisir, prendre le bon air, mais aussi participer à des événements.
Quels sont les événements?
Alors, si je déroule l'été, hein, donc on va dire que après les premières ouvertures d'école pour le vélo, l'ouverture du domaine d'altitude avec le VTT à la mi-juin, le 19 juin, donc ça s'approche, hein, donc tant mieux, on se prépare. Premier grand rendez-vous, justement le Alpes Epic, qui est une sorte de grand itinéraire de VTT dans les Alpes et les Hautes-Alpes en particulier, avec un camp de base sur Serre Chevalier. Donc là, un rendez-vous sportif de belle tenue. On poursuit dans le folklore et l'historique avec les médiévales qui n'avaient pas pu se tenir l'été dernier et qui reviennent. On les attend le 2, 3, 4 juillet. Donc voilà, on est déjà quasiment sur le début des vacances scolaires françaises. Et puis ça va embrasser tout le mois de juillet et le mois d'août. Du début juillet jusqu'à la fin août, le grand et nouveau rendez-vous Briançon sous les étoiles. Ça va vraiment, avec 6 semaines d'événements, être un rendez-vous majeur de l'événement culturel et festif, non seulement pour la vallée dans le Briançonnais, mais je pense pour toute la région, pour toutes les Hautes-Alpes, puisqu'on va retrouver dans la cité Vauban principalement, donc classé patrimoine mondial de l'UNESCO, tout le monde le sait, mais je le rappelle, hein, site magnifique, mais justement qui sera sublimé par des sons et lumières, et puis surtout toute une série de concerts grand public assez éclectiques, avec de très belles têtes d'affiches, pop, rock, mais aussi du jazz, de la musique de chambre, certains d'ailleurs ont lieu à la collégiale. Bref, un programme très étoffé, il faudra le consulter en détail, mais c'est une nouveauté et ça va vraiment être un rendez-vous majeur qui va mettre une très grosse ambiance sur Briançon et là encore le plaisir de se retrouver, de partager des moments de musique ou de fête. Après, tout ce dont on parle, bien sûr, sera conditionné à des adaptations avec les conditions sanitaires, mais tout se prépare normalement. D'ailleurs, je signale que tous les événements ou animations qui sont prévus par l'Office de Tourisme ou tous les partenaires de la vallée sont bien maintenus et se préparent et s'organisent. Et jusqu'à preuve du contraire, ils vont se tenir et ça nous fera grand plaisir. Donc on poursuit. On poursuit, hein, Sue, on est d'accord. On arrive sur la mi-juillet, 11 au 18 juillet, le rendez-vous incontournable depuis plus de 30 ans, le mondial de l'escalade, qui exceptionnellement a pu se tenir. Briançon a eu la fierté de tenir les mondiales l'année dernière en septembre, un des seuls événements qui s'était tenu. Là, ça revient à sa date habituelle. Donc de nouveau, Briançon, capitale de la verticalité, et on va retrouver les grandes têtes d'affiche en matière de grimpe. Et puis on bascule sur le mois d'août, les grands rendez-vous sportifs. Là, je pense au défi du Galibier, 14 août. Bon, là, c'est du vélo, bien entendu. Et toujours aussi au Monnetier, parce que là on est au pied du Lautaret, du Monnetier. 14 août, la fête de la montagne, fête des guides, un rendez-vous traditionnel. On trouvera aussi la fête du bois un petit peu plus tôt, mais c'est cette ambiance d'alpiniste de haute montagne qu'on retrouve sur le haut de la vallée, et ça c'est un incontournable un petit peu de l'été. Et puis petit à petit on arrive sur la fin du mois d'août avec la haute route, là aussi une très belle épreuve grand public, mais pour des amateurs bien musclés de la petite reine, donc du vélo, qui traverse les Alpes avec tous les grands cols, et donc sur le 26-27 août une très belle étape ici à Serre Chevalier. Et puis la dernière partie de l'été, le mois de septembre. Bon, on sait que dans le Briançonnais on a des étés indiens, septembre, octobre, voire novembre, donc ça va bien se présenter. Le trail, alors toujours sportif, hein, le Serche Trail Salomon, 11-12 septembre, un grand rendez-vous très réputé dans, entre autres, le cadre magnifique des crêtes des Serres, hein, à la limite entre la Clarée et la vallée de Serre Chevalier. Montpellier. Et puis on revient toujours sur Briançon à la fin du mois de septembre, après les journées du patrimoine, les journées européennes. On aura des belles choses aussi à découvrir en patrimoine et dans les chapelles aussi. Je signale les chapelles peintes qui sont tout à fait exceptionnelles dans tous les villages de la vallée. Et donc 22-26 septembre pour clôturer l'été, le Street Art Festival à Briançon, c'est une nouveauté là encore, avec des démos et un programme de fresques qui seront réalisées sur différents lieux de la commune, différentes façades, plus des ateliers et toute une série d'animations. Voilà pour ce programme bien chargé.
Excellent, il y a pour tout le monde. Quelles sont les options d'hébergement disponibles?
Alors c'est vrai que pour les gens qui viennent nous voir sur un week-end ou un peu plus longtemps, hein, y compris les publics de la région un peu plus au sud, on a vraiment toutes les formes d'hébergement du grand chalet à l'appartement, parce que c'est vrai qu'en été, les tarifs sont plus abordables qu'en plein hiver, et ça permet dans ce cas-là, soit à budget équivalent, de se payer un très grand appartement, ou de s'offrir une grande surface, ou des chalets avec piscine, des choses comme ça, soit de faire des vacances à budget réduit, pour pouvoir garder du budget pour des restaurants, des bars qui seront ouverts, n'est-ce pas, ou des prestations qui sont importantes de pouvoir découvrir, comme de l'accompagnement en montagne, ou des guides, ou du rafting, ou de la nage en eau vive, où là il faut prévoir un budget, mais ça vaut le coup, parce que c'est vraiment une autre découverte de la montagne, on est encadré en toute sécurité, et puis surtout ça permet de faire des activités à l'eau vive par exemple, ou une descente en parapente, qu'on pourrait pas faire soi-même, sachant que c'est pas du tout du sport extrême, c'est très facile. Et voilà, donc ces différents modes d'hébergement permettent de se payer un beau séjour, un très beau week-end à la montagne. Et ça, c'est la plus-value qu'on propose à Serre Chevalier pendant l'été.
Et Briançon a récemment reçu 2 étoiles pour l'édition 2021 du Guide Vert Michelin.
Oui, c'est vrai. C'est important de le rappeler. C'est vrai qu'avec l'Instagram, les influenceurs sur Internet, les réseaux sociaux, on peut parfois penser que tout le monde a son point de vue sur les sites touristiques et que les références du tourisme, de la grande époque du tourisme, le Guide Vert Michelin par exemple, sont dépassés, mais pas du tout, et justement ils permettent de faire le tri dans les très nombreux sites touristiques, et donc Briançon pour cette nouvelle édition du Guide Vert Alpes du Sud a bien été confirmé 2 étoiles, et 2 étoiles, il faut le savoir, c'est quasiment le maximum, puisque ça part du petit point jusqu'à 1, 2 et 3 étoiles pour les sites majeurs. Donc on est vraiment dans le top pour le Briançonnais, pour les Hautes-Alpes, avec Briançon et la cité Vauban en particulier, patrimoine mondial de l'UNESCO, et selon le terme classique, c'est vaut le détour, ça vaut vraiment le détour.
Et voilà, c'est cette jolie note. Très belle saison à vous et vos équipes. On a hâte de découvrir tous ces événements.
Nous vous proposons une visite originale à la safranerie de Saint-Martin-de-Brome.
C'est un lieu qui harmonise ces deux activités, l'élevage des ânes et la culture du safran. Olivier, c'est vous qui avez visité cette exploitation originale. Je signale que cette interview fait partie du magazine mensuel que nous coproduisons avec l'Office de tourisme communautaire de Durance-Luberon-Verdon Agglomération et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Olivier, présentez-nous la safranerie.
Oui François, Anne et Safran, les deux passions et des pépites que Magali et Lucien Baud proposent à leurs visiteurs. Une 15aine d'ânes peuvent vous emmener en balade et savent aussi se faire câliner par les petits et les grands. Le couple fait aussi du coaching équin avec 3 chevaux. Direction la safranerie à Saint-Martin-de-Brome, près de Gréoux-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Lucien Baud, vous êtes avec votre femme propriétaire de la safranerie.
On a fait une création d'entreprise il y a quelques années et après on est passé en tant qu'agriculteur sur le Saint-Martin-de-Brome. On est aujourd'hui producteur de safran et ânier avec notre troupeau de aujourd'hui 15 ânes qu'on a avec nous. On fait avec eux de l'animation village, on fait des balades à dos d'âne, de la médiation animale et du coaching équin aussi avec les 3 chevaux qu'on a. Voilà.
Alors la médiation animale, ça doit bien fonctionner parce qu'ils sont plus que câlins, hein. Ils sont venus directement vers nous, à peine entrés, chercher des caresses.
Oui, en fait c'est un animal qui est très sociable puisqu'il vit avec nous depuis très longtemps, depuis des siècles. L'âne est proches de l'homme. Et après, on essaie de leur donner un contact très, très sociable pour qu'on puisse s'approcher d'eux avec les enfants, tout ça, et d'enlever cette pensée qu'on a de l'âne qui donne toujours des coups de pied ou des morsures ou des trucs comme ça. Qui, voilà. C'est assez, on arrive à avoir confiance en eux et ça fait que voilà, c'est un animal qui est très proche de nous, quoi.
Si l'âne a cette réputation-là, c'est que peut-être il était simplement maltraité.
Ben, disons que dans le temps, l'animal était utilisé comme un outil, on va dire, entre guillemets. Il devait produire aussi vite que l'homme produit, quoi. Et voilà, donc il fallait qu'il avance. Hein, et, on ne cherchait pas à lui savoir s'il était fatigué, s'il avait un besoin quelconque sur la journée ou sur le moment, quoi.
Magali Nogier-Baud, vous êtes avec Lucien, donc la créatrice de la safranerie. Alors comme on le voyait, la safranerie, tout est dit.
Oui, exactement, si on comprend le jeu de mots. Donc il y a safran et ânerie. Donc on propose des activités avec les ânes et des produits au safran qu'on produit ici à Saint-Martin.
Des produits au safran tels que ?
On produit du safran brut qui est proposé en filament, des confitures avec des fruits et du safran, des sirops, vinaigre... et gelé.
Le safran, c'est des pistils en fait, de
oui,
la fleur, c'est ça?
Exactement. Ce sont les pistils entiers qui sont à mettre à infuser pour intégrer dans des recettes, comme par exemple dans la paella, c'est l'èmre, ou dans la soupe de poisson, dans des desserts aussi, avec par exemple dans des brioches, dans des crèmes desserts. Enfin voilà, il peut y avoir plein d'idées à utiliser avec le safran.
Et pour ce qui concerne les ânes, vous louez vos ânes,
oui,
pour des promenades.
Oui.
Vous emmenez des enfants, vous avez affaire aussi aux écoliers, aux vacanciers.
Alors oui, on a régulièrement des groupes de centres de loisirs, des écoles, des crèches même. Et puis ensuite, en individuel, des familles, donc plus souvent des gens qui sont en vacances dans le secteur. Sinon, aussi des locaux qui viennent les week-ends et pendant les vacances scolaires. Donc on est ouvert toute l'année, il faut réserver pour venir faire une balade avec Nan, donc c'est bien de réserver au moins 2 jours avant. Donc c'est des balades qui durent de 1 heure jusqu'à 2 jours, donc il y a plusieurs formules, on peut les voir sur notre site internet, c'est safranerie.fr.
Un numéro de téléphone éventuellement?
Oui, alors 06 79 82 29 95.
Vous êtes près du Colosse, une rivière qui vient de...
De Saint-Jurs et qui se jette dans le Verdon. Et nous, on est situé à Saint-Martin-de-Brome, donc entre Allemagne-en-Provence et Gréoux-les-Bains.
Est-ce qu'en ces temps de pandémie, ça a changé un peu vos pratiques ?
Pas vraiment sur tout ce qui est accueil des familles de façon individuelle, puisque ce sont des familles qui viennent de leur côté. Donc il y a on met à disposition du gel hydroalcoolique et puis les personnes viennent avec un masque. Et ensuite ils partent sur la balade en famille avec l'animal, sans nous. Donc du coup là ils peuvent être libres de mettre un masque ou pas. C'est des personnes qui vivent déjà ensemble. Ça a changé au niveau des groupes principalement, du coup, parce qu'on est limité sur les accueils de groupes. Pour les groupes d'enfants, c'est possible d'accueillir encore des groupes d'enfants qui viennent d'école ou de centres aérés. Pour les balades avec les ânes, c'est disponible pour les enfants de tous âges. Ils peuvent monter sur les ânes jusqu'à 40 kg. Au-dessus, c'est aussi très agréable de faire une balade en compagnie des animaux et de s'occuper d'eux, de les brosser, de partir à pied en leur compagnie. Et les enfants en dessous de 4 ans ont besoin d'être accompagnés par 2 adultes parce que l'équilibre est encore un peu précaire sur les ânes.
En plus des balades, vous proposez un rendez-vous hebdomadaire.
Exactement, on appelle ça le « Je parraine un âne ». Donc c'est proposé pour les familles avec des enfants qui peuvent choisir un âne dans le troupeau qu'ils vont parrainer. Ils vont pouvoir venir rendre visite tous les samedis matins de 10h à midi avec notre accompagnement. On va s'occuper de l'animal, apprendre des choses sur lui et puis faire des jeux, des activités avec cet animal pour lequel on s'attache beaucoup en général.
Et enfin Magali, les 2 ânesses que l'on verra sur une des photos qui seront publiées sur notre site. Ça s'appelle comment ?
Alors c'est Flanelle, la maman, et Layette qui est la petite ânesse qui est née le 4 mars, voilà, qui est toute mignonne et qui pince un peu les fesses.
Ce sont des ânes de Provence ?
Oui, tout à fait. On a une activité d'élevage d'ânes de Provence qui sont typiques gris avec la croix de Saint-André sur le dos. Voilà, ce joli marquage.
Thank you.
C'est la fin de ce Force 7, François. Merci beaucoup.
Merci à vous, Olivier. À la semaine prochaine.